Au rythme du parc, une émission dédiée aux actualités du parc naturel régional du Vercors, une émission financée par le parc et diffusée sur Radio Diwa, Radio Royan, Radio Dragon, News FM et Radio Saint-Ferréol.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Radio Diwa sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Pour commencer cette nouvelle saison de Au rythme du parc, nous allons nous intéresser aux centrales électriques avec Bertrand Joly, chargé de mission eau et milieu aquatique, animateur du contrat de rivière porté par le parc. Bertrand Joly, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour parler de centrales électriques, on pourrait commencer par la situation hydrographique attenante au massif du Vercors, peut-être.
Oui, donc il faut quand même se remettre à l'esprit que le massif du Vercors a une géologie assez particulière qu'on appelle une géologie karstique. C'est-à-dire que massif constitué de calcaire qui, au fil des processus d'érosion particulièrement liés à l'eau, s'est transformé en une espèce de gruyère, hein, avec des réseaux de grottes, de rivières souterraines très nombreuses, très connues d'ailleurs par le monde de la spéléologie.
C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il y a assez peu d'eau au sommet du Vercors.
C'est clairement ça, c'est-à-dire que ce massif du Vercors, finalement, en surface, il est relativement aride, on pourrait dire. On a des rivières comme une rivière qui coule sur la partie drômoise, qui part du col du Roussin, hein, qui s'écoule vers le nord. Cette rivière, elle a à peu près 20% de l'eau qu'elle devrait avoir. C'est-à-dire 80% de l'eau sur ce périmètre-là s'infiltre dans ce que j'appelais tout à l'heure un gruyère. A l'inverse, évidemment, toute cette eau ressort un peu plus bas, en dessous de cette épaisse couche calcaire, et elle se retrouve concentrée dans la partie avale ou moyenne de la rivière Bourne, qui est le drain majeur de tout ce massif karstique. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que EDF, actuellement, gère un ensemble d'ouvrages hydroélectriques, hein, de production relativement important, et des installations qui sont là depuis fort longtemps, plusieurs dizaines d'années, voire pour certaines, pas loin d'un siècle.
Si on devait évaluer l'impact en termes de production de ces centrales, est-il important ?
Au global, on peut considérer donc que sur le massif du Vercors, au sens large, on va avoir disons 4, 5, 6 barrages importants, structurants, hein, la plupart gérés par EDF, plus un ensemble de petites installations qu'on appelle plus communément micro-centrales, plutôt gérées par des privés, vraiment des petites productions. Et il est clair que c'est premièrement l'essentiel de la production d'énergie renouvelable sur le massif du Vercors, et en plus qu'elle est largement excédentaire. Elle couvre de manière théorique, évidemment, bien plus que les besoins en énergie sur le massif du Vercors.
Quels sont les usages principaux de ces centrales électriques ?
L'ensemble des ouvrages construits ont trois usages principaux. Donc le majeur, vous venez de le rappeler, c'est la production d'énergie hydroélectrique. Mais on pourra retenir aussi un deuxième usage non négligeable qui est, on va dire, le prélèvement d'eau et l'irrigation, puisqu'on a sur le bas du massif la prise d'eau du canal de la Bourne, hein, fort connu, et qui initialement a été construit pour aller irriguer la plaine de Valence pour les productions agricoles. Et puis troisième usage qui est aujourd'hui un peu plus patrimonial, hein, qui a été historique, c'est-à-dire que sur la partie en dessous du complexe calcaire, lorsque l'eau ressort, le Royan notamment a été équipé historiquement d'un ensemble de canaux et l'eau y a été utilisée essentiellement en tant que force motrice pour un ensemble d'usines, de tourneries, de choses de ce genre. Et on a encore quelques installations qui tournent à titre plutôt patrimonial dans ce domaine.
Y aurait-il des inconvénients à ces centrales électriques ?
Si vous voulez, tout ouvrage construit en travers d'une rivière est un obstacle à la continuité dans ce cours d'eau. De manière générale, il faut que ces écosystèmes qui sont particulièrement riches, complexes, très dynamiques, aient le plus possible de continuité pour tout ce qui est la vie biologique, hein, espèce piscicole. On est en montagne, la majeure partie en tout cas de la faune piscicole, pas en espèces mais en nombre, sont les salmonidés, hein, truites. Et ce sont des espèces qui ont nécessité, pour se reproduire, de remonter les cours d'eau. Donc voilà, continuité pour les espèces piscicoles, pour les petites espèces d'accompagnement, insectes, larves ou autres. Éventuellement, plus sur les pourtours du massif, pour des espèces type castor ou loutre, hein, qu'on commence à voir réapparaître. Et puis, plus difficile à gérer, qui ont des conséquences plus lourdes dans les aménagements financiers, c'est la continuité sédimentaire. La montagne subit bien évidemment des processus d'érosion qui fait que la roche qui se délite va finir sa course dans le cours d'eau et petit à petit, elle est censée aller à l'aval et finir un jour au bord de la plage en Méditerranée où on va se baigner l'été. Très, très schématiquement, c'est la réalité des choses. Il y a nécessité de faire transiter ces sédiments. Et bien évidemment, tout obstacle sur le cours d'eau empêche ce transit. L'image très simple, c'est qu'un barrage construit il y a 50 ans, si on s'occupe de rien, eh bien, au bout de 50 ans, il est plein. Il est plein de sédiments.
Y a-t-il de nos jours de nouveaux projets d'aménagement de ces cours d'eau ?
Alors, il n'y a pas aujourd'hui, ou très peu, on va dire, de nouveaux projets importants sur le massif du Vercors, pour différentes raisons. La première est que on est en montagne, on est près d'agglomérations importantes comme le bassin de Grenoble, de Valence, etc. Donc le massif, depuis longtemps, est équipé avec des ouvrages structurants. Le deuxième point est aussi qu'il y a une évolution récente de la réglementation qui a amené à classer des tronçons, des parties de cours d'eau en liste 1 ou 2, qui rajoute des contraintes supplémentaires pour éventuellement pouvoir de nouveau installer des ouvrages de production électrique. Retenons très simplement, la liste 2, c'est que tout ouvrage existant doit se mettre en conformité sous, on va dire, 5 ans, sur ces histoires de continuité. Un ouvrage existe en liste 2, et bien le propriétaire, gestionnaire de l'ouvrage, doit faire en sorte que la faune piscicole puisse le traverser dans un sens ou dans l'autre, et puis même chose, que les sédiments puissent aller de l'amont vers l'aval sans trop de problèmes. Et lorsqu'on est en liste 1, là, on se trouve dans un contexte beaucoup plus, je dirais, patrimonial de préservation de nos ressources, des écosystèmes, toujours pour les services qu'ils rendent à la société. Et là, sur ces listes 1, il est très difficile de construire des nouveaux ouvrages parce que tout nouvel ouvrage, dès sa création, doit être équipé de ce genre d'aménagement de continuité.
Qui ne doivent pas être donnés, je suppose.
Tout à fait.
Est-ce que le parc naturel régional du Vercors a des vues sur la gestion de certains barrages ou initie des projets ou régule tout ce qui se fait en matière de micro-centrales sur le parc du Vercors ?
Oui, tout à fait. Si vous voulez, le parc du Vercors porte aujourd'hui un contrat de rivière dont j'ai en charge l'animation. Plus généralement, qui s'est inscrit dans un programme qui est appelé depuis une vingtaine d'années sur le massif Vercors au pur. Et ce contrat de rivière, comme tout contrat de rivière, la première de ses vocations est de mettre autour de la table tous les usagers et acteurs concernés par la ressource eau et de concilier les usages. L'usage production hydroélectrique est évidemment un des usages majeurs. Avec le deuxième, c'est la production d'eau potable. Et puis, il vient de se rajouter à ça un usage pour des activités touristiques et agricoles. Donc, nous, vraiment, importer un contrat de rivière, c'est ce qu'on fait. C'est vraiment arriver à concilier les usages pour que chacun y trouve son compte.
J'ai entendu dire que des progrès avaient été faits en matière de micro-turbines. Est-ce que si un particulier sur son propre terrain souhaitait réaliser un aménagement pour produire un peu d'électricité, ce serait possible avec ces histoires de réglementation dont vous nous avez parlé récemment?
Oui, tout à fait. Si vous voulez, je crois qu'il faut garder en tête que la loi sur l'eau, enfin la ressource en eau est probablement la plus réglementée. La loi sur l'eau, en tout cas dans ses dernières moutures, n'interdit pas particulièrement d'aménagement. Elle donne des cadres par contre. Donc toute personne privée souhaitant aménager, on l'invite à se tourner vers nous ou à nos collègues, suivant la partie du massif, qui va leur donner un petit peu les procédures pour monter un dossier et le faire instruire par les services de l'État qui, en fonction du secteur, des enjeux locaux, etc., donnera un ensemble de préconisations. Et au vu de ces préconisations, le particulier verra budgétairement si ça vaut le coup ou pas d'investir en termes de rentabilité.
Eh bien, monsieur Bertrand Joly, merci pour tous ces renseignements et je vous souhaite une bonne continuation.
Merci, et vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.